bon côté, le deuil vu autrement.
Le podcast de ce jour pourrait s'intituler « Les ressources trouvées dans la sophrologie face à un événement de la vie endeuillant », entre guillemets, ou « La sophrologie comme ressource face à un événement de la vie endeuillant ». La vie du bon côté reçoit Philippe Draps, qui est médecin et sophrologue. Bonjour Philippe.
Bonjour Sylvie.
Vous utilisez la sophrologie au Centre de traumatologie et réadaptation de l'hôpital universitaire Erasme dans un cadre multidisciplinaire. Alors si j'ai parlé d'un événement de la vie endeuillant, je pense en effet que vos patients sont de manière synthétique endeuillés, voilà, blessés par la vie, endeuillés par la perte d'un membre, par la perte d'un corps d'avant, par la perte de l'autonomie. Ce sont des accidents dramatiques en général qui leur sont arrivés.
Tout à fait, ils sont endeuillés dès le début. Il y a le deuil de l'accident, il y a le deuil des circonstances de l'accident, il y a le deuil de l'hospitalisation, de l'immobilisation, de la douleur qui est liée au traitement, et il y a le deuil évidemment du corps qui change, qui est mutilé, qui est moins fonctionnel, et puis vient le deuil de toutes les activités que l'on faisait avant, du sport, la profession, parfois le deuil d'une famille qui se disloque, et donc c'est un des éléments les plus importants que l'on rencontre au niveau émotionnel dans notre centre et qui se traite, et je suis content que vous l'ayez souligné, de manière multidisciplinaire.
Oui, absolument, parce qu'en effet, vous êtes toute une équipe. Les indications sont en gros, m'avez-vous dit, la gestion des émotions liées bien sûr à ces accidents de la vie, l'acceptation du handicap et du matériel qui y est lié, hein, fauteuil roulant, prothèse, orthèse, béquille, réappropriation d'un nouveau schéma corporel, d'une nouvelle vie. Alors la sophrologie, je pense que c'est ça, vous voulez mettre en avant. On va rappeler un peu ce que c'est, Philippe.
Oui. Alors la sophrologie, c'est une méthode qui a été mise en place dans les années 60 par Caicedo, et c'est une méthode, et j'aimerais bien insister là-dessus, qui est en fait une technique cognitivo-comportementale. Alors pourquoi c'est important? Parce que ces techniques cognitivo-comportementales, ces TCC, ont donné la preuve scientifique de leur efficacité. Et on est à un moment où certains discréditent la sophrologie en disant que ça n'est pas une science, en tout cas que ça n'est pas quelque chose d'efficace, en tant que TCC, technique cognitivo-comportementale, elle a fait la preuve de son efficacité. Et c'est en fait une boîte à outils, et c'est ça, en ça qu'elle est une TCC, mais elle est aussi, comme le dit Richard Esposito, une pédagogie de l'existence. Parce qu'elle se base sur un certain nombre de principes, qui sont des principes qui nous permettent d'avancer dans la vie, et particulièrement pour nos patients handicapés. Il y a un principe de perception du schéma corporel. C'est important, on a perdu un schéma corporel, on a changé de schéma corporel, et on a aussi des émotions. Donc une meilleure perception de son schéma corporel est important pour eux. Il y a aussi un principe d'action positive. Alors c'est vrai qu'ils vivent une situation négative, difficile d'en vivre de ce type. On essaie de leur faire percevoir qu'il y a du positif à côté. L'accident aurait pu être plus grave, la famille aurait pu être blessée. Ainsi de suite.
Des choses qu'on ne peut pas entendre tout de suite.
Qu'on ne peut pas entendre, et donc c'est dans les discussions qui se font avant les séances et après les séances que l'on peut amener et donner des techniques qui aident à mieux appréhender ce genre de choses. C'est aussi des techniques de prise de recul, en se disant qu'on est plein de croyances, on a plein d'idées sur ce qu'est le handicap, et ça n'est pas nécessairement ce que l'on croit. On a une perception du regard des autres, ce regard des autres n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Et enfin, il y a un principe d'adaptabilité qui est important, adaptabilité du sophrologue par rapport à son patient, mais aussi adaptabilité du handicapé par rapport à sa nouvelle vie.
Les séances de sophrologie, en résumé, hein, bien sûr, oui. se déroulent comment? Allez, quelles sont les premières étapes peut-être qui sont envisagées avec des patients comme ça?
Alors d'abord, ça se fait sur prescription médicale dans notre centre. Et puis, il y a une concertation multidisciplinaire pour décider si le patient peut
bénéficier. Donc on parle de kiné,
bénéficier.
On parle de...
Pardon
on parle, quand vous dites multidisciplinaire,
oui.
Il y a
les
kinés,
il y a les ergos, il y a des logopèdes, des neuropsychologues, des psychologues, des infirmières et des médecins qui se réunissent, des assistants sociaux qui se réunissent et qui discutent d'éventuelles indications de la sophrologie dans le contexte du patient. Une prescription médicale, un des 5 sophrologues du centre qui est paramédical ou médecin rencontre le patient, rencontre l'équipe et on décide à ce moment-là si la sophrologie est en effet une aide possible et on propose aux patients la mise en place de séances qui se font de façon hebdomadaire, individuellement, ou parfois en binôme lorsqu'on prend un kinésithérapeute avec nous pour associer les compétences des deux. Et la séance dure en tant que telle une petite demi-heure, mais elle est précédée d'une discussion qu'on appelle le dialogue présophronique et suivie d'une discussion de débriefing. Globalement, moi, je bloque une heure pour un patient.
Et est-ce qu'il y a du toucher? Est-ce qu'il y a du, est-ce que de la musique douce?
Il n'y a aucune musique douce dans notre technique, en tout cas, en méthode, aucune musique douce, aucun toucher. Mm-hmm. Et tout ce qui va être proposé au patient lui est expliqué préalablement et son accord lui est demandé, de telle sorte que pendant la séance qui se fait dans un niveau d'état de conscience modifié, le patient soit rassuré que rien ne va se passer d'autre que ce qu'on lui a expliqué. Et il est d'ailleurs tout à fait apte, pendant cet état qui est en fait entre la veille et le sommeil,
on parle un peu d'hypnose,
d'arrêter la séance ou pas. C'est un état de conscience modifié aussi, l'hypnose. Il y a des différences, c'est qu'en hypnose, on induit des choses, on utilise des métaphores, ce qui n'est pas notre cas. La seule chose qu'on induit, c'est l'activation du positif et le fait de ressentir du bien-être. Oui. Mais on n'utilise pas de métaphores qui permettent, elles, de travailler dans le subconscient du patient.
Mm-hmm. Le patient a les yeux fermés? Le patient...
Il les a fermés ou ouverts, comme il le souhaite. Ah,
à fait. Ouais. Et votre voix, je suppose, est importante? Alors,
la voix est essentielle. La voix est une voix qu'on appelle, c'est un terpnos logos, comme on appelle ça dans le métier. C'est une voix qui est calme, posée, monocorde.
Vous faites aussi, vous adoptez cette approche aussi dans le handisport. Vous êtes suivi par Cap 48.
Oui, tout à fait.
Ouais, donc,
on a eu le grand plaisir d'ailleurs d'être aidé par Cap 48. Mm-hmm, mm-hmm. Le handisport est pour nous une des façons de se resocialiser par les contacts qu'on peut avoir avec d'autres sportifs. C'est aussi une façon de renforcer les acquis, entre guillemets, théoriques de la kiné, de l'ergo, où on remuscle les choses, mais dans des exercices d'alter ou d'équilibre, etc., et de les mettre en application dans la vie quotidienne au travers du sport.
Bientôt, un livre sortira. Oui. Ou il est sorti. Non, il doit bientôt sortir.
Il doit sortir fin de l'année, en principe. Oui.
Concernant la sophrologie en rééducation neurolocomotrice. Oui. Donc, c'est ce dont vous nous parlez.
Tout à fait, parce que notre centre est spécialisé dans ce type de pathologie, donc les paraplégiques, des tétraplégiques, des polytraumatisés, des amputés. Et donc, c'est notre expérience multidisciplinaire en sophrologie avec ce genre de patients qu'on a voulu partager.
Bien, bien. La sophrologie, dans le cadre de votre activité en rééducation, on parle bien de rééducation.
Il y a rééducation et réadaptation.
Ah, voilà, c'est les deux.
Alors, le titre exact, c'est en réadaptation neurolocomotrice. Bon, la rééducation, c'est le moment où on réapprend des mouvements. La réadaptation, c'est quand on utilise ces mouvements dans la vie quotidienne.
Ah, ok.
L'un suit l'autre.
Merci, Philippe Raps. Encore une fois, un article accompagne ce podcast pour vous en dire plus. Ce sont des patients, donc comme vous l'avez dit, qui sont des paraplégiques, des tétraplégiques, des personnes qui ont subi des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux, amputés, polytraumatisés. Ça veut dire qu'on parle bien d'un deuil, en effet, à approcher et surtout à surmonter par rapport à cette approche. Merci Philippe et renseignez-vous bien sûr si vous voulez en savoir plus.
Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.